Chapitre 3. Ce soir même, Sébastien attendit vainement Mathilde à le rendez-vous près de la Madeleine. Il s'effraya. Serait-elle malade? Quel habile manœuvrier de débauche! La lui aurait-il volée? Il partit en fureur pour Montmartre, bousculant sur les trottoirs les passants qui le croyaient fou, ce petit bonhomme à longue canne, à grand gibus planté sur la nuque. Il arriva rue Lepic en nage. Il interrogea Madame Gobert, qui, sur le pas de sa porte, se grattait les dents au moyen d'une paille de balai. « Mademoiselle Mathilde, est-elle rentrée ?»«
Il y a longtemps. Mais qu'avez-vous ?»«
Rien !» Il avait empoigné déjà la rampe de l'escalier. Au troisième, il frappa, discrètement d'abord, à la porte de Mathilde et bientôt, parce qu'il ne recevait aucune réponse, à coups de poing redoublés. Mathilde comprit que Sébastien s'obstinerait au risque d'ameuter la maison. Alors, s'efforçant au calme, elle s'empressa d'ouvrir. Il entra, aussi prompt, terrible qu'un boulet, et, jetant sur le lit son gibus, son pardessus, il accabla Mathilde de questions. « Que se passe-t-il? Je te supplie de m'expliquer. En as-tu contre moi ?»«
Contre toi? Certes non. Tu es si gentil. »
« Toi qui plaisantes toujours, tu as un air de mélancolie qui m'inquiète. »«
Mon Dieu, laisse-moi !»
Sébastien traîna une chaise auprès d'elle. Dans le rond de la lumière, elle cousait une jaquette chaude. Irrité de la voir en proie à des chagrins trop réels, puisqu'elle les cachait, il ne savait comment, sans la blesser, lui offrir son assistance. « Manques-tu d'argent ? » murmura-t-il. « Ta patronne t'a-t-elle congédié ?» Elle se taisait en se mordant les lèvres. Il insista. « C'est bien grave ton souci, que tu ne puisses me le confier ?» Elle cessa de coudre et, souriant avec langueur, elle dit « Ce n'est pas toi que j'ai connu le premier, tu penses bien. »«
Un autre t'a possédé ?»«
Non, personne ne m'a possédé, jamais. Écoute-moi sans m'interrompre. Donc, là-bas, à Anzin, dans les promiscuités de notre vie d'enfer, j'avais un compagnon de jeux et de promenades. Nous tâchions d'oublier ensemble, le soir, après le travail, nos privations de toutes sortes, nos dégoûts d'être nés si pauvres. Mais tandis que lui, Pierre, un maçon, fidèle à ses origines, s'accommodait pour lui et pour moi des conditions d'un servage éternel, je comprenais, moi, qu'on ne peut pas créer du bonheur avec de la misère et de l'ignorance. » Un jour, tu le sais, je résolus de rompre avec ma maison. Ici, dans Paris, je croyais que Pierre se consolerait de moi, là-bas, avec une de nos camarades qui accepterait de vivre auprès de lui, selon son amitié de notre terre. Je pensais à lui comme à un mort, de loin en loin, pour le plaindre, et... Achève, il est venu à Paris, il t'a retrouvé ?
Oui.
Tu l'aimes ? Nous étions enfants, tout petits, que nous allions bras à bras par les rues et les chemins. Je ne peux pas le détester. Je ne veux plus que tu le voies.
Je ne le souhaite pas non plus.
Changeons de quartier.
Non, si je me cache, il s'exaspérera davantage. Je courrai mille dangers, toi aussi.
Moi, qu'importe, il faut te soustraire à ses recherches. Ou bien, je croirai que tu me mens et que c'est avec lui que tu veux vivre. Sébastien s'était levé d'un bond, brandissant ses bras trop courts, ses épaules trapues. Elle frappa doucement le dossier de sa chaise pour l'inviter, d'ailleurs en vain, à s'asseoir, et sans se départir de son calme, elle ajouta
« Tu es fou. Si je voulais te quitter, t'aurais-je révélé l'existence de Pierre? Je serais partie et voilà tout. C'est lui qui repartira bientôt pour Anzin, car avec ses molles habitudes de la province, il ne trouvera point d'ouvrage à Paris.
Malgré toi, tu tiens à lui. Sans t'en rendre compte, il te plaît d'habiter un quartier où tu sens sa présence, son ombre qui va rôder de rue en rue, à ta recherche comme un loup.
Eh bien, tant pis, je suis fâchée de te contrarier, mais si tu n'es pas content, va où tu voudras.
Tu m'abandonnerais ?
C'est toi !
Il la saisit au bras pour la contraindre à l'obéissance. Aussitôt, elle se rebiffa.
Je ne t'appartiens pas encore, sais-tu ?
Tu ne m'aimes pas.
Alors, pourquoi insistes-tu ? De quel droit veux-tu me commander ?
Ah, mon Dieu, que de raison ! Il faut que tu sois à moi seule, parce que je veux t'épouser.
Ta mère ne se presse pas d'y consentir.
Elle résiste à cause des préjugés de province.
Toi aussi, tu as des préjugés. parce que j'ai connu, aimé peut-être, autrefois, dans une existence qui me semble morte, un homme de mon âge et de mon pays, tu as peur. Mais je veux rester ici, moi, à Montmartre, pour prouver à cet homme que je ne crains rien, ni personne. Ah, Seigneur, je vais t'aimer davantage. Quel mal y aura-t-il là? Aucun si je t'épouse. Oui, vois-tu, il faudra que j'aille moi-même trouver ma mère. Loin de moi, elle tergiverse à son aise. Allons, laisse tes inquiétudes, viens à la fourmi. Il s'efforçait de la mettre debout, de lui donner un élan de gaieté. Elle résista. Merci, pas ce soir. Alors, dînons ici, veux-tu, j'irai chez le charcutier. Non, pas ce soir. Il n'osa, par une sorte de respect, la tourmenter dans son refus. Elle se renversait, les yeux mouillés de reconnaissance, pour lui offrir son front, sa bouche, où, câlinement, il dévora son baiser qu'elle croyait chaste. À bientôt. Il disparut. L'écho de son pas indécis sur les marches de l'escalier la frappait d'une douleur. Sébastien descendait lentement, à regret. Au troisième, il heurta un gros homme qui lui barrait le passage. « Pardon, monsieur. Où allez-vous » maugréa le gros homme. « Est-ce que cela vous regarde ?»« Je suis monsieur Jaume. Êtes-vous un de mes locataires ?»« Oui, monsieur, du second. Vous n'avez rien à réparer ?»« Non, monsieur. » Monsieur Jaume le dévisageait avec une anxiété étrange. Sébastien, sans soupçonner la malice du propriétaire, continua de descendre. Monsieur Jaume avait, en ancien maçon, la manie de la truelle. Ainsi, certains soirs, il venait faire l'architecte dans sa maison lorsque les locataires étaient rentrés. Mais, à présent, dans son mépris des pauvres, il devinait que cet employé de ministère, si cossu en ses habits, n'avait loué une chambre chez lui, au milieu des ouvriers, que pour mieux courtiser la modiste sans le sou. Au troisième, il frappa sans hésitation à la porte de Mathilde. Celle-ci, croyant que Sébastien avait oublié quelque chose, ouvrit aussitôt. Quelle stupeur la cloua sur le carreau de voir contre elle s'avancer l'homme poisseux du bois de Saint-Mandé qui s'épongeait le front. Il entra délibérément en tapant de la canne et fit le tour de la chambre bien à l'aise. Mathilde, d'un long moment, n'eut la force de proférer aucune protestation. « Ce n'est pas mal ici, goyait-il. Que voulez-vous, monsieur ? Ah ah, ce que je veux ! » Mathilde, ayant, après le départ de Sébastien, ôté sa robe, montré le relief exubérant de ses hanches, la clarté de sa gorge et de ses bras. Il la détaillait avec patience en sa jeunesse intacte, qui donnait soif à ses lèvres lipues, à ses joues rasées de l'avant-veille. « Eh, eh, je visite ma maison. Vous n'avez rien à réparer ?»« Non, monsieur. Tant mieux. » D'un large rire muet, il exprimait son admiration, ses convoitises. Mathilde, par prudence, s'insinuait de l'autre côté de la table. Offusqué d'une répulsion pareille, M. Jaume brusqua son défi. « Notre délai expire dans quelques jours, souvenez-vous-en. »« On paiera. Vous avez rencontré une âme charitable. Ah, si vous vouliez, après tout, on n'est pas vieux à 50 ans, ni mal bâti. » Ouvrant ses mains aussi dures que du bois, il s'élançait. Elle tourna, laisse, autour de la table, non sans frémir de crainte. « Ne criez pas, mademoiselle. Voyons, vous ne me ferez pas croire que vous êtes un ange descendu sur la terre et que d'autres ne tirent pas parti de votre étoffe. Avec moi, vous n'y perdrez pas. Les vieux sont les plus raisonnables. »« Lâche, allez-vous-en. Je suis chez moi. »« Chez moi aussi, puisque vous n'avez pas payé. Enfant que vous êtes. » S'effrayant pour elle, pour la lampe, elle fit une fois mine de s'évader. Mais dans l'escalier, que penserait-on de la voir à demi vêtue, à garde, la jupe au mollet? On s'amuserait de la paillardise du vieux et elle ne voulait même pas être soupçonnée. Il la poursuivait toujours en lui offrant son loyer, une robe, une soirée au théâtre. « Je ne vous aime pas, répliquait-elle, personne ne peut m'obliger. »« Si, si, il n'y a que le premier pas qui coûte. » « Sapristi de sapristi !» Dans son mouvement d'impatience, il perdit l'équilibre, fit d'un tour de bras mal appliqué et chavirait la lampe, et, entraînant la table, il roula d'une masse sur le carreau. Mathilde, dans l'obscurité subite qui assurait son salut, éclata de rire pendant que M. Jaume, pâteau, se relevait en soufflant de lassitude. « Je me suis fait mal, mademoiselle !» Vous l'avez voulu.
Éclaire-moi, sorcière.
Allez-vous-en.
Nous verrons bien, on te repincera.
Bien qu'il gênît de ses blessures, Mathilde s'abritait obstinément de la table qu'elle avait redressée sur la moquette. Avant de partir, il lui jeta une menace.
Vous paierez au jour convenu, mademoiselle, sinon gare.
Et vous, ma lampe, mon tapis.
Oh, moi, j'ai de l'argent.
Monsieur Jaume, faisant sonner son gousset, gagna l'escalier à tâtons. Elle l'entendit geindre encore, sans aucune conscience du scandale qu'il avait pu commettre. Après avoir refermé à clef, rallumé la lampe, elle mit de l'ordre dans sa chambre. Elle affecta de rire très haut. Pourtant, au milieu de son hilarité, une appréhension la surprit de cet homme têtu, trop riche, qui répugnait à l'orgueil de son corps.